Je parle au nom de l'association des résistants de Haute-Savoie et de l'Ordre de la Libération. En mémoire du général de Gaulle, pour les survivants et pour les morts. Lorsque Tom Morel eut été tué, le maquis d'Aiglières exterminé et dispersé, il se fit un grand silence. Les premiers maquisards français étaient tombés pour avoir combattu face à face les divisions allemandes avec leurs mains presque nues, non plus dans nos combats de la nuit, mais dans la clarté terrible de la neige. Et à travers ce silence, tous ceux qui nous aimaient encore, depuis le Canada jusqu'à l'Amérique latine, depuis la Grèce et l'Iran jusqu'aux îles du Pacifique, reconnurent que la France bâillonnée avait au moins retrouvé l'une de ses voies, puisqu'elle avait retrouvé la voie de la mort. L'histoire d'Aiglières est une grande et simple histoire, et je la raconterai simplement. Moins pour ceux qui sont ici et qui la connaissent, que pour la France à l'écoute, qui l'écoutera ce soir. Pourtant, il faut que ceux qui n'étaient pas nés alors et depuis combien de millions d'enfants sachent qu'elle n'est pas d'abord une histoire de combat. Le premier écho d'Aiglières ne fut pas celui des explosions. Si tant des nôtres l'entendirent sur les ondes brouillées, c'est qu'ils y retrouvèrent l'un des plus vieux langages des hommes, celui de la volonté, du sacrifice et du sang. Peu importe ce que fut dans la Grèce antique militairement le combat des Thermopyles. Mais dans ces 300 sacrifiés, la Grèce avait retrouvé son arme. Et pendant des siècles, la phrase la plus célèbre fut l'inscription des montagnes retournées à la solitude, et qui ressemble à celle-ci. Passant va dire à la cité de Sparte que ceux qui sont tombés ici sont morts selon sa loi. Passant va dire à la France que ceux qui sont tombés ici sont morts selon son cœur. Comme tous nos volontaires depuis Bir Hakeim jusqu'à Colmar, comme tous les combattants de la France en armes et de la France en rayon, nos camarades vous parlent par leur première défaite comme par leur première victoire, parce qu'ils ont été vos témoins. On ne sait plus guère aujourd'hui que tout commença par un mystère de légende. Le plateau d'Aiglières était peu connu, presque inaccessible, et c'est pourquoi les maquis l'avaient choisi. Mais alors que nous combattions par la guérilla, ce maquis, à tort ou à raison, peu importe, la France ne choisit pas entre ses morts, avait affronté directement la milice, allait affronter directement l'armée hitlérienne. Presque chaque jour, les radios de Londres diffusaient: trois pays résistent en Europe, la Grèce, la Yougoslavie, la Haute-Savoie. Trois pays résistent en Europe, etc. La Haute-Savoie, c'était l'Aiglières. Pour les multitudes éparses qui entendaient les voix du monde libre, ce plateau misérable existait à l'égal des Balkans. Pour des fermiers canadiens au fond des neiges, la France retrouvait quelques minutes d'existence parce qu'un Savoyard de plus avait atteint l'Aiglières. La milice de Darnand, les troupes italiennes, la police de Lovra n'avaient pas suffi pour venir à bout de ces combattants toujours regroupés. Hitler y mit la Gestapo et contre nous, la Gestapo pesait lourd. Le Gestapo ne suffit pas. En janvier 1944, Les maquis de l'Ain sont harcelés par trois divisions. Ceux de Haute-Savoie reçoivent l'ordre de se regrouper ici, au commandement du lieutenant Tom Morel, décoré en 40 pour l'un des plus éclatants faits d'armes des unités alpines. La montée commence, les accrochages aussi. Le 13 février, les messages codés de la BBC annoncent le premier parachutage. Voici la nuit. Le champ, pauvre champ, est éclairé par 5 torches électriques et des lampes de poche. On n'entend pas les avions, on n'entend rien. Jusqu'à ce que les sirènes anti-aériennes d'Annecy emplissent lentement la nuit. Bon augure, les avions approchent, mauvais augure, ils sont repérés. On allume les 4 énormes bûchers de sapin préparés. Le bruit des moteurs. Le premier avion invisible fait clignoter son signal. Le bruit s'éloigne, la neige, le flux et le reflux des sirènes dans la nuit préhistorique. Pas encore d'ennemis, plus d'amis. Et sur le ciel noir apparaissent un à un, éclairés en roue par les feux du sol, 50 autres parachutes. Pas d'armes lourdes, tant pis. Les accrochages reprennent. Le 9 mars, 100 hommes des Lières vont attaquer Entremont pour délivrer des prisonniers. Après 2h30 de descente, ils atteignent le village Calère-Flichien. Village conquis, prisonniers délivrés. 47 gardes prisonniers à leur tour montent ici, tirant un monceau d'armement. Tirant aussi le corps de Tom Morel, tué par le commandant des gardes, capturé, à qui il avait laissé son revolver. Le maquis enterre son chef et entend bouleverser le glas de toutes les églises montées de la vallée, comme montait l'appel des sirènes pendant le parachutage. Ici, le drapeau claque dans les rafales de neige, sur ce que Tom Morel appelait le premier coin de France qui ait recouvré la liberté. Le mot non, fermement opposé à la force, possède une puissance mystérieuse qui vient du fond des siècles. Toutes les plus hautes figures spirituelles de l'humanité ont dit non à César. Prométhée règne sur la tragédie et sur notre mémoire pour avoir dit non aux dieux. La résistance n'échappait à l'éparpillement qu'en gravitant autour du nom du 18 juin. Les ombres inconnues qui se bousculaient aux glières dans une nuit de jugement dernier n'étaient rien de plus que les hommes du non. Mais ce nom du maquisard obscur, collé à la terre pour sa première nuit de mort, suffit à faire de ce pauvre gars le compagnon de Jeanne et d'Antigone. L'esclave dit toujours oui. Les gardes de Vichy attaquent au sud du côté de Notre-Dame pour délivrer les leurs et sont repoussés. Le combat s'achève à peine lorsque la BBC transmet le fameux message. Le petit homme casse des tessons de bouteille. Avant minuit, 30 quadrimoteurs larguent 90 tonnes de matériel. Quand un avion allemand vient en reconnaissance, la vaste neige est encore constellée de parachutes multicolores. Le ramassage n'est pas terminé. Le lendemain, Treuhandkel bombarde et mitraille à loisir, le plateau redevenu innocent. Sans grand résultat, sauf celui-ci. Les Allemands savent désormais que le maquis ne possède pas d'armes anti-aériennes. Donc, 5 jours plus tard, reviennent les Heinkel et les Stuka. Chalets transformés en torches. Le capitaine Anjou remplace Tom Morel au commandement des Glières. Nouvelle attaque des gardes, de nouveau repoussée. Le 23, bombardement massif. Les Allemands prennent le commandement. Une division alpine de la Wehrmacht arrive à Annecy, assistée de 2 escadrilles de chasseurs et de bombardiers. Police allemande, milice vichiste, l'artillerie divisionnaire, les automitrailleuses. En face, le maquis dont nous attendons heure après heure que la radio de Londres nous parle. Entre-temps, de Français à l'écoute, pas un ne sait que ce maquis est un fantôme. Moins de 500 combattants. L'armement qui attend leurs compagnons ne comprend que des armes légères. Contre l'artillerie divisionnaire allemande et les automitrailleuses, pas un canon, pas un bazooka, plus de ravitaillement. Autour, 20 000 hommes. Le premier combat du peuple de la nuit s'engage. Écoutons les dépêches allemandes. Le 24, terroristes font sauter train de renfort allemand devant Annecy. Attaque de la milice au-dessus d'Entremont, sentinelles espagnoles tuées, rejointes par groupes terroristes. Troupes de la milice regroupées à l'arrière. Le 25, préparation d'artillerie et bombardement d'aviation. Le 26, troupes regroupées, attaque allemande nord stoppée, envoyée aviation. Nos mortiers mis en place. Attaque sur 2 points ouest depuis 5 heures. L'attaque générale aura lieu à 11 heures. Ils attaquent en effet de tous côtés. L'avant-poste de la passe d'Entremont, 18 hommes, est attaqué par 2 bataillons. 2 sections de renfort atteignent la passe. Le premier fusil mitrailleur s'enraye. Le second est détruit, son servant tué. L'un des 2 chefs de section, Baratier, a l'impression d'être seul à tirer. Il ignore qu'il survit seul. Il se replie en continuant à combattre et prit Harvey et tué. Il défendait la passe depuis 1h30. Les maquisards qui se rabattent vers le centre reçoivent plus vite les munitions et tiennent. Pourquoi l'ennemi s'enfuit-il dans la neige? Parce que 10 minutes plus tard commencent les piquets ininterrompus des Stuka, serrés comme des fers de herse. La nuit va descendre. Le capitaine Anjou combat devant les tombes de Morel et de Decourt. L'aviation allemande s'en va, remplacée par le pilonnage méticuleux de l'artillerie. Il fait nuit. Le 27 au matin, les troupes allemandes de l'Est touchent le poste de commandement du maquis, commence le feu. En face, des cris allemands, poussés par leurs camarades de l'Ouest, les maquisards ont disparu. Ils connaissaient bien le terrain que les Allemands ne connaissaient pas du tout. Anjou a convoqué les chefs de section et ils ont décidé de décrocher. Pendant que toute la résistance à l'écoute attend le pire, chacun sait maintenant que les Glières n'ont ni canon ni avion, des chaînes de fantômes qui se tiennent par la main dans la nuit pour pouvoir relever leurs blessés lorsqu'ils tombent, traversent l'anneau discontinu des troupes d'assaut. Encore leur faut-il arriver jusqu'aux agglomérations de la vallée, où leurs camarades que l'on appelle les sédentaires leur donneront asile. Le jour se lève. Alors commence la grande trahison de la neige. Ces insaisissables fantômes dont les Allemands ne rencontraient que des balles et ne trouvaient que des cadavres sont partis avec la nuit. La petite aube dissipe les spectres, dit le proverbe espagnol qu'un des musiciens de lèvres cite au capitaine Angeau. Ces ombres, hélas, sont devenues des traces. Les Allemands cherchent le gros du maquis réfugié dans quelque abri de montagne, car ils croient combattre encore des milliers d'adversaires. Mais nombreuses ou non, les traces mènent aux hommes et les sections ennemies occupent les pentes. Le lendemain, le capitaine Angeau et les 6 Espagnols qui combattent avec lui sont tués. De ce qui fut l'épopée des ombres, il ne restera le jour venu que 121 cadavres tués entre les villages, exécutés sur les places ou torturés à mort. Inutile de reprendre l'interrogatoire des blessés, télégraphie la Gestapo. Ces débris sont vides. C'est l'heure des représailles. Les paysans suspects de combat avec le maquis sont exécutés ou déportés et l'on reconnaît les hameaux la nuit aux torches des chalets qui flambent. Pourtant, si les torturés sont vides, la résistance ne l'est pas encore. Le premier chef est mort. Le second chef est mort. Les rescapés organisent d'autres maquis, rejoints par des jeunes de plus en plus nombreux. Le gros des unités allemandes est appelé en Normandie. Le 1er mai, les maquis les plus proches reviennent manœuvrer sur ce plateau où ils retrouvent les cylindres couverts de rouille des parachutages entre les chalets incendiés. Le 14 juillet, ils défilent à travers Tôle. Le 1er août, les camions ont rassemblé 1500 hommes de l'armée secrète et 400 FTP. À 11 heures, les forteresses volantes lâchent le dernier parachutage qui apporte enfin les armes lourdes. Fini le temps des maquis de misère. Un char qui se dresse est certes une terrible bête, mais pour lui, un bazooka invisible est un monstre caché. C'est le bazooka, non la mitraillette, qui a fait des vrais maquis une force supplétive considérable. Un char est plus fort qu'une compagnie de mitraillettes, il n'est pas plus fort qu'une torpille. Le 13, pendant 3 jours, les automitrailleuses ennemies combattent les maquis et sautent. Le 19, lorsque la radio annonce que l'insurrection générale commence à Paris, 5 mois jour pour jour après l'attaque des Glières, le général Auberg, qui la commandait, apporte au capitaine Nisier, chef militaire de la résistance, la capitulation de ses troupes. Alors, dans tous les bagnes, depuis la forêt noire jusqu'à la Baltique, vos déportés qui survivaient encore se levèrent sur leurs jambes flageolantes. Et le peuple de ceux dont la technique concentrationnaire avait tenté de faire des esclaves parce qu'ils avaient été parfois des héros, le peuple dérisoire des tondus et des rayés, notre peuple, pas encore délivré, encore en face de la mort, ressentit que même s'il ne devait jamais revoir la France, il mourrait du moins avec une arme de vainqueur. Et maintenant, le grand oiseau blanc de Gilgali a planté ses serres ici. Avec son aile d'espoir, son aile amputée de combat, et entre elles son soleil levant. Avec son lieu de recueillement à l'intérieur, sa statue dont les bras dressés sont pourtant des bras à fer, avec ses voies entrecroisées, qui feront penser à l'interrogation des tombeaux égyptiens que Que disent les voix de l'autre monde avec leur bruit d'abeilles? Elles disent « Nous sommes les torturés agonisants dont la Gestapo disait qu'il était inutile de les lui envoyer puisqu'ils étaient vides. Les Espagnols tombés ici en se souvenant des chants de lèvres et du jour où la Révolution vida les mondes qui étaient de tout ce que les pauvres y avaient engagé. Les Français qui avaient rejoint après avoir combattu, eux, dans la ligne Maginot jusqu'au dernier jour. Les gens des villages sans lesquels le maquis n'aurait pu ni se former ni se reformer. Ceux qui ont sonné le glas pour lui. Ceux que les Hitlériens ont déportés, ceux qu'ils ont fait courir pour rigoler pendant la répression, devant leurs mitrailleuses qui les descendirent tous. Peu importe vos noms que nul ne saura jamais, ici nous vous appelions la France, et quand vous étiez espagnol, nous vous appelions lèvres, du nom de votre dernière bataille. Je suis la mercière fusillée pour avoir donné asile à l'un des vôtres. Je suis la fermière dont le fils n'est pas revenu. Nous sommes les femmes qui ont toujours porté la vie, même lorsqu'elles risquaient la leur. Nous sommes les vieilles qui vous indiquaient la bonne route aux croisées des chemins et la mauvaise à l'ennemi, comme nous le faisons depuis des siècles. Nous sommes celles qui vous apportaient un peu à manger, comme depuis des siècles. Nous ne pouvions pas faire grand-chose, mais nous en avons fait assez pour être les vieilles des camps d'extermination, celles dont on rasait les cheveux blancs. Jeanne d'Arc ou pas, Vierge Marie ou pas, moi la statue dans l'ombre au fond du monument, je suis la plus vieille des femmes qui ne sont pas revenues de Ravensbrück. Morel, Angeau et tous mes morts du cimetière d'en bas, c'est à moi que viendront ceux qui ne connaîtront pas votre cimetière. Ils sauront mal ce qu'ils veulent dire lorsqu'ils chuchotent seulement qu'ils vous aiment bien. Moi, je sais, parce que la mort connaît le murmure des siècles. Il y a longtemps qu'elle voit ensevelir les tués et les vieilles. Il y a longtemps, Joe, qu'elle entend les oiseaux sur l'agonie des combattants de la forêt. Ils chantaient sur les corps des soldats blancs d'eux. Il y a longtemps qu'elle voit les longues files noires comme celle qui a suivi ton corps, Morel, dans la grande indifférence de l'hiver. Depuis la fonte des glaces, vous autres, dont les noms sont perdus, elle voit s'effacer les traces des pas dans la neige, celles qui vous ont fait tuer. Elle sait ce que disent aux morts ceux qui ne leur parlent qu'avec les prières de leur mère et ceux qui ne disent rien. Elle sait qu'ils entendront le glas que toutes les églises des vallées ont sonné un jour pour vous et qui sonne maintenant dans l'éternité. Souvenez-vous de nous qui étions des lières. Sans rien dire, ils penseront. Bonne nuit, dormez bien. Dormez sous la garde que monte autour de vous la solennité de ces montagnes. Elles ne se soucient guère des hommes qui passent. Mais à ceux qui vivront ici, vous aurez enseigné que toute leur solennité ne prévaut pas sur le plus humble sang versé, quand il est un sang fraternel. Alors vous viendrez vers moi, ce déglière, et dans la nuit sans retour, les mains suppliciées de celui d'entre vous qui mit le plus longtemps à mourir, caresseront sur ma tête rasée la trace de mes cheveux blancs.